Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, cancer, tous responsables. En 2018, 382 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en France. 157 400 personnes en sont mortes. Des chiffres qui ont été rendus publics ce lundi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Alors, si la recherche et les soins sont évidemment des axes majeurs de cette lutte, l'accent a été mis cette année sur la prévention. Selon un chiffre communément admis, 40% des cancers pourraient être évités en réduisant les comportements à risque et en suivant des recommandations telles que ne pas fumer, éviter l'alcool, manger sainement ou encore faire de l'exercice. De telles recommandations sont connues, mais elles peinent manifestement à se traduire en actes. La nouvelle campagne de prévention lancée ce lundi au niveau mondial vise donc à responsabiliser chaque individu par rapport à ce risque, à l'inciter à s'engager personnellement dans cette lutte. Qui que vous soyez, peut-on lire sur le site de l'Union internationale contre le cancer, vous avez le pouvoir de réduire l'impact du cancer sur vous-même, sur les gens que vous aimez et sur la planète entière. Alors cancer, tous responsables. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Christophe Letourneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes oncologue à l'Institut Curie. Oncologue, cancérologue, c'est la même chose. L'Institut Curie, c'est un centre de recherche, un centre hospitalier spécialisé en cancérologie. Et vous dirigez le département d'essais cliniques précoces et d'innovation. Pour discuter avec vous, Nicole Delépine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cancérologue, ancienne chef de service de cancérologie pédiatrie à l'APHP, assistance publique hôpitaux de Paris. Parmi vos nombreuses publications, je citerai Le cancer, un fléau qui rapporte, publié aux éditions Michelon. Et puis notre troisième invité, Marie Gaille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez notamment sur la relation entre médecine et philosophie. Et vous avez publié l'an dernier au PUF, Santé et environnement. Alors je voudrais vous relire à tous les trois un extrait de ce qu'on peut lire depuis aujourd'hui sur le site de l'UICC, l'Union internationale contre le cancer. Qui que vous soyez, vous avez le pouvoir de réduire l'impact du cancer sur vous-même, les gens que vous aimez et sur la planète entière. Il est temps de prendre un engagement personnel. J'aimerais savoir ce que ça vous inspire, Nicole Delépine.
Je crois qu'un engagement personnel, c'est important effectivement par rapport peut-être à notre vie quotidienne et en particulier les inconvénients auxquels on s'expose, du genre des pesticides, peut-être dans l'alimentation, etc. Vous posiez la question du bio tout à l'heure, je ne sais pas, mais probablement qu'il
est quand
même mieux.
Tout à l'heure, c'était
hors antenne. Mais bon, je pense qu'il est mieux d'essayer, effectivement, d'avoir une alimentation saine, pas faire de trop de plats cuisinés. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces choses-là que les gens connaissent bien, mais pour effectivement éviter ça.
Mais comment est-ce que vous la comprenez, cette phrase? Est-ce que ça signifie que nous ne sommes pas suffisamment engagés individuellement contre cette maladie?
Moi, je ne me permettrai pas de juger la population ni les gens. Il y en a probablement un certain nombre qui sont très engagés, d'autres pas, et je n'ai pas la prétention de juger les citoyens du monde sur ces sujets-là. Mais je crois qu'effectivement, la responsabilité importante qu'on doit avoir, en particulier le jour où on est malade, puisque quand même vous parlez un peu de cancer dans cette émission, c'est surtout bien s'informer, essayer de se prendre en charge soi-même, pas faire tout et n'importe quoi. Tout le temps, d'ailleurs, quand on est bien portant, on est bien portant. Moi, je dis quand même souvent, et ça peut peut-être vous choquer, mais d'aller voir les médecins quand vous avez des symptômes et passer votre vie à aller voir des gens, que ce soit des médecins, des vrais ou des faux, parce que vous allez peut-être un jour avoir un cancer. Vivez bien, vivez normalement. Et le jour où vous avez un souci, allez voir, effectivement, éventuellement, un vrai médecin pour discuter avec lui de vos préoccupations.
Christophe Letourneau, comment vous la comprenez, vous, cette phrase qui est sur le site de l'Union internationale contre le cancer? Ça me paraît quand même assez, peut-être pas totalement inédit, mais enfin, en tout cas assez nouveau que d'interpeller aussi directement les individus.
Oui, mais je pense que c'est tout à fait légitime. Alors effectivement, on dit qu'on connaît la cause finalement des cancers, de 40% des cancers. Alors maintenant, individuellement, on ne peut pas dire à un patient que son cancer est dû à telle ou telle attitude. Mais globalement, on sait que dans 40% des cas, il y a des facteurs de risque identifiés. Alors maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a quand même une hiérarchie dans les facteurs de risque. Et déjà, le tabac est le premier meurtrier dans le cadre du cancer. Donc effectivement, déjà s'attaquer au tabagisme, et c'est ce que fait notre ministre de la Santé, et je le remercie pour ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Alors effectivement, oui, parce que en fumant moins, et tout le monde le sait aujourd'hui, on diminue son propre risque de cancer, en particulier du cancer du poumon. En fumant moins ou en ne fumant pas autour des autres, on diminue également le tabagisme passif qui peut lui-même induire des cancers. Donc responsable, oui, on l'est, et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant que le tabac tue.
Mais alors justement, j'allais y venir, parce que vous dites tout le monde le sait, et pourtant on continue à mourir de cancers qui sont liés notamment à l'usage du tabac. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer ça, et est-ce que c'est ce qui explique la, comment dire, qu'il soit toujours aussi nécessaire de rappeler ces messages de prévention.
Mais oui, mais c'est pas parce qu'on sait effectivement qu'un facteur de risque existe qu'on va adopter l'attitude qui permet de ne pas avoir de cancer. Si tel était le cas, aucun médecin ne fumerait. Or aujourd'hui, il y a des médecins qui fument et ils savent exactement ce qui peut se produire. Donc la connaissance du risque n'est pas suffisante en elle-même. Ensuite, il y a un choix individuel et c'est là où effectivement la responsabilité est importante.
Marie-Gaille, la connaissance du risque n'est pas suffisante pour faire changer de comportement.
Ah oui, tout à fait, je suis complètement d'accord.
C'est une belle question, je suis d'accord.
Oui, oui.
C'est pour ça que je la pose à la philosophe.
Non, mais en fait, c'est un phénomène. Effectivement, depuis, je dirais, une petite quarantaine d'années, on se rend compte que la personne visée dans les messages de prévention, et ça a été montré de façon très évidente par des enquêtes de sociologie, d'anthropologie, est une sorte de personnage un peu fictif qui recevrait l'information, l'assimilerait, la digérerait et en tirerait des conséquences pour sa vie au quotidien. Or, d'une part, il faut s'adresser et être capable de s'adresser à toutes les classes d'âge, à des niveaux d'éducation extrêmement différents, aussi une manière et une capacité de prendre en compte l'information et de la traduire dans sa vie de façon effective, ce qui n'est pas toujours simple. Il y a énormément de personnes pour lesquelles recevoir une injonction concernant un mode de vie ou un comportement ou un petit plaisir qu'ils s'accordent, ça peut être la cigarette, le verre de vin, etc., constitue quelque chose qui s'ajoute à une pile de contraintes et qu'il est de fait extrêmement difficile de mettre en œuvre au quotidien. Donc il faudrait effectivement la question de la prévention elle est extrêmement complexe parce qu'elle doit se déployer dans des messages atteignant des personnes extrêmement différentes par leur âge, leur mode de vie, leur capacité à rebondir, je dirais.
Nicole Delépine.
Je partage tout à fait cette opinion. Effectivement, c'est pas parce qu'on vous dit faut pas fumer. Les congrès de cancérologie sont quand même assez fascinants de ce côté-là. C'est que dans toutes les pauses, vous voyez des tas de gens sortir. Mais je crois qu'effectivement, et puis probablement nos conditions de vie de plus en plus difficiles, en tout cas dans certaines périodes, font que les gens ont du mal à supprimer le petit plaisir dont vous venez de parler, qui les déstresse un peu. Et bon, on peut pas non plus dire aux gens ne fumez pas, puis le reste du temps les laisser vivre dans des conditions de difficulté majeures. Enfin, quand on voit là en ce moment avec les gilets jaunes, un certain nombre de reportages, on a beau savoir que la vie est difficile, mais il y a quand même des gens qui à la télé expliquent des choses où vous dites c'est pas possible, quoi, qu'ils mangent plus, qu'ils mangent un jour sur deux, etc. Bon, je suis pas sûr que nos conseils de prévention vont atteindre ces gens-là parce qu'ils voudraient peut-être déjà avoir à donner à manger à leur enfant. Quoi.
Est-ce que par ailleurs on a la certitude que finalement le public est suffisamment bien informé? C'est-à-dire on a l'impression qu'effectivement ces messages de prévention sont massifs, sont connus. Cela dit, le lien n'est pas toujours fait entre par exemple le fait de un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts, ou bien alors à consommer avec modération, et le lien qu'il peut y avoir avec le cancer. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité peut-être de rappeler la certitude qu'on a ou les incertitudes qu'on peut avoir entre tel comportement et tel risque d'avoir un cancer, Christophe Letourneau?
Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ça et avec Madame Delépine. Quand on peut s'occuper de sa santé, c'est qu'effectivement tout le reste va bien. C'est vrai que quand ça va pas à la maison, que voilà, il y a des problèmes de chômage, qu'il y a des problèmes familiaux, etc., mettre en priorité ensuite sa santé, c'est compliqué. C'est vrai que chez les gens chez qui tout va bien, mais ensuite se dire bon voilà, maintenant je vais faire attention à ma santé, mais voilà, chez toutes ces personnes effectivement qui ont des difficultés au quotidien, on peut bien comprendre que ces messages, ils rentrent par une oreille et puis ils ressortent par l'autre. Oui.
Marie-Gaille.
Oui. Après, en plus, je pense aussi qu'il faut voir dans cette injonction à devenir tous responsables pour soi-même et pour les autres, le fait que le paysage est peut-être un peu incomplet. C'est-à-dire, moi, à titre individuel, je veux bien essayer de prendre en charge ma santé aussi pour d'ailleurs mes enfants, parce que je peux leur transmettre un certain nombre de choses par mon bagage génétique. Mais dans ce cas-là, c'est toute la société qui est concernée et d'autres acteurs que les individus. C'est aussi les entreprises qui peuvent utiliser pour leur production des produits toxiques ou en produire de façon directe indirect. C'est aussi, l'État à un niveau plus général qui peut à la fois avoir un ministère de la Santé qui va orienter la santé publique dans une direction et se trouver contrecarré par d'autres intérêts, d'autres forces. C'est aussi un phénomène bien connu. Et la conséquence de ça, c'est que ça envoie quand même aussi des messages contradictoires à la population. Et je pense que c'est important de voir qu'il y a des forces divergentes, y compris sur l'envoi de messages en santé publique, et qu'il faudrait être tous responsables, à la fois les acteurs économiques, les acteurs politiques et les individus, y compris dans leur mode de vie, de consommation et de production.
Est-ce que vous voulez dire, Marie-Gaye, qu'on fait peut-être un peu trop porter la responsabilité sur les individus que nous sommes et qu'on devrait la faire davantage porter sur les acteurs économiques et notamment peut-être les industriels, où on voit bien quand même que régulièrement il y a des affaires qui apparaissent, des affaires, des scandales sanitaires qui auraient peut-être pu être, enfin même sans doute pu être évités si une attention aussi forte avait été portée.
Oui, bah, effectivement, c'est un peu le sens de ce que je voulais dire, c'est que si on entame ce discours de la responsabilité, et pourquoi pas, même si on est dans une culture de la solidarité à l'égard de la santé en France et que c'est pas un discours qui rentre aisément, si on entame cette démarche, il faut aller jusqu'au bout et aussi donc s'interroger collectivement sur nos choix de production, nos choix de consommation et la manière dont on organise la diffusion de produits toxiques, qui sont aussi des éléments, je dirais pas cause de cancer, mais en tout cas qui peuvent en susciter ou contribuer à en susciter.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, et Christophe Letourneau et Nicole Delépine? Christophe Letourneau?
Tout à fait, à 100%. C'est vrai que parfois on se demande si on marche pas sur la tête. On nous dit effectivement qu'il faut pas fumer, et puis on voit aussi, alors de la publicité en France c'est plus difficile, hein, mais bon, on incite les jeunes à fumer, etc., par certaines compagnies qui produisent le tabac, et c'est vrai que c'est insupportable. Faire les deux à la fois, ça a pas de sens. On devrait au moins déjà bloquer toute publicité. Alors c'est déjà le cas en France, hein, pas mal, mais je veux dire, pour ne pas inciter d'un côté, et puis de l'autre côté dire on doit arrêter de fumer.
Donc ça veut dire que vous, pour vous, la bonne voie de la prévention, ça passe par des mesures de coercition?
Écoutez, pour le tabac, quand je vois les dégâts du tabac, et c'est pas seulement le cancer, hein, c'est cardiovasculaire, c'est pulmonaire, c'est tout ce que ça cause, etc. Parfois, je me pose la question. Quand je vois mes patients au quotidien, oui, je me pose la question. Je me dis, est-ce que, effectivement, rendre l'accès au tabac plus difficile, c'est une bonne mesure? Augmenter le prix, c'est une bonne mesure? Parce que si à un moment, les gens se disent, oh là, je peux plus, c'est trop cher, bah, tant mieux, quoi. Et c'est tout ce que je leur souhaite.
Vous êtes d'accord avec cette approche, Nicole Delépine? Est-ce que c'est pas...
Je trouvais que Marie avait un beau programme. Ah. Après la coercition, je pense que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut pas passer notre temps à dire aux gens comment ils doivent se comporter. Je veux dire, pour moi, c'est contre, mon éthique de médecin, quoi. Je veux dire, je comprends tout à fait, surtout quelqu'un qui travaille en ORL avancé. J'imagine qu'effectivement, voir des patients très avancés, ça conduit à dire, faut éviter ça. Donc, je comprends tout à fait votre position, moralement. Mais éthiquement, c'est insupportable. Je crois qu'on peut pas, continuer à contraindre les gens à faire telle chose. On va parler peut-être des vaccinations, etc. Mais toutes les obligations sont contre, si j'ose dire, le code de Nuremberg et toute l'éthique qui va avec. Donc je crois qu'effectivement, expliquer, c'est bien. Contraindre, puis pour le tabac, je crois que la France a des frontières pas très éloignées, donc finalement les gens vont en acheter en Belgique ou en Espagne.
Sauf peut-être Nicole Delépine, si on considère, mais je ne sais pas si c'est le cas, que par exemple, alors restons sur cette question du tabac, le fait d'avoir des comportements à risque et ensuite, et ben malheureusement, d'avoir un cancer, ça n'a pas des incidences uniquement sur soi-même, sur l'individu, mais ça aurait des incidences plus larges sur la société, ne serait-ce que par exemple sur la prise en charge de la solidarité qui heureusement existe. Mais est-ce que ça, c'est un argument qui vous semble
odieux? Non, moi c'est un argument que je ne peux pas entendre parce que plein d'assurances l'ont fait déjà il y a 10-15 ans pour dire si vous allez au ski et vous avez un accident, c'est vous qui payez, etc. Donc il y a 25 000 sortes de comportements à risque, je ne vois pas pourquoi on isolerait les gens qui fument. En l'occurrence, je ne fume plus, hein, je ne défends pas ma position. J'ai jamais tellement fumé, mais non, mais on peut pas interdire tel comportement à risque et puis tel autre comme le ski ou tous les sports à haut risque.
Oui, il y en a beaucoup. Il ne s'agit pas d'interdire, bien entendu, mais c'est de pousser les gens dans une direction.
Après, c'est dans l'explication et comme vous dites, l'explication des gens qui sont en état de l'entendre parce que leurs conditions de vie font qu'ils sont en état de l'entendre. Exactement. Et ça, je crois que c'est important aussi d'insister là-dessus.
Ce discours, en tout cas, qui consisterait à dire à telle personne, écoutez, vous avez des comportements et ça va rejaillir ensuite sur la société parce qu'il va bien falloir vous prendre en charge. Donc, on va tout faire pour que vous n'ayez plus ce genre de comportement à risque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe un peu, beaucoup, aujourd'hui, Marie-Gaille ?
Alors, à ma connaissance, en France, en tout cas, non. D'abord, pour l'expérience que j'ai de collaboration avec des équipes médicales, effectivement, vous soulignez que c'était contraire, Madame de Lépine, à votre éthique de médecin. Je n'ai jamais entendu, et ni même d'ailleurs imaginé, dans un service de soins, quand j'ai pu assister à des consultations, donc pour des personnes qui sont déjà diagnostiquées ou qui sont sur le point de l'être, qui sont pris en charge peut-être au long cours, de médecins ou de membres d'une équipe soignante, dire « Ah ben non, c'est vraiment de votre faute, on vous soigne plus. » Enfin voilà, voilà. Depuis la Révolution française, on a mis en place au long cours un système d'assistance, et l'assistance, elle se porte au souffrant, même s'il est en partie responsable de sa souffrance. Après, donc voilà. Alors après, on pourrait s'orienter vers un autre système de santé publique, mais encore une fois, moi je pense que dans ce cas-là, et de prise en charge, il faut être cohérent. Il faut aussi que la société s'organise pour diminuer les risques qu'elle induit à travers ses modes de production. On peut pas faire dans la demi-mesure.
Ou à minima à travers ses modes de communication et d'information. Il y a la Ligue nationale contre le cancer qui propose, par exemple, alors ils ont fait des assises de la prévention en novembre dernier, parmi leurs préconisations, celle d'un toxiscore. Alors toxiscore, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est sur le modèle du Nutri-Score, vous savez, c'est-à-dire c'est ce code couleur qu'on trouve sur les produits, qu'on trouve de manière assez discrète encore, dans certains magasins, mais sur les produits d'alimentation, en fonction de leur nocivité. Et là, ce serait de le faire sur les produits non alimentaires. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis assis sur un siège, et s'il y a des matières qui sont potentiellement cancérigènes, qu'au moins, j'ai cette information-là, c'est-à-dire que je ne l'achète pas aveuglément. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? C'est-à-dire, est-ce que ça vous paraît pertinent, Christophe Le Tourneau ?
C'est la première fois que j'en entends parler, mais moi, j'ai envie de dire, quand j'entends ça, mais est-ce que c'est pas la tolérance zéro là qu'il faut avoir, quoi? Je sais pas, vous montriez votre fauteuil là, mais ça peut être tout et n'importe quoi.
Ce qu'il y a dans mon fauteuil.
Oui,
est-ce qu'on peut pas faire construire des objets, etc., sans avoir des produits cancérigènes, quoi?
La tolérance zéro.
C'est une question naïve, mais c'est vrai que c'est ça. Voilà.
Nicole de Lépine.
Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le sujet précédent. Là, en Angleterre, ils ont essayé, avec les grands cardiaques, de ne plus soigner, pas faire de pontage aux cardiaques qui fumaient beaucoup, etc. Mais bon, ça a été une honte absolue quand même. J'espère que c'est plus le cas, je ne sais pas. Mais enfin, pendant un moment, effectivement, les grands cardiaques qui avait fumé était refusé de soins corrects, on les collait en palliatif ou on leur disait allez en Inde vous faire ponter, je ne sais pas. Donc ça, je crois vraiment. Quant au risque zéro, comme vous dites, c'est une responsabilité collective là, pour le coup, et de nos agences de santé, d'environnement, etc., de surveiller les matériaux qu'on utilise. On n'a pas franchement l'impression que ce soit le cas, ni pour les médicaments, ni pour l'alimentation. Alors
ça demande des moyens pour la recherche,
Des volontés, oui, et puis des volontés quand même. Volonté aussi, parce que bon, on n'est pas des naïfs quand même si on est ici. Il y a quand même des lobbies qui interfèrent beaucoup. Quand on voit le roman du glyphosate, c'est rigolo, c'est pas rigolo du tout, mais je veux dire, c'est tragique plutôt, mais il faut mieux rire que pleurer tout le temps, parce que sinon on pleurerait beaucoup. Vous pouvez effectivement pas dire genre, c'est parce que vous avez fumé, parce que vous avez été au ski, mais bon, d'accord, vous avez bouffé du glyphosate toute la journée, mais ça faisait plaisir au lobby de Bruxelles ou d'ailleurs. Donc effectivement, la responsabilité individuelle, elle ne peut, je souscris à ce que vous avez dit, elle ne peut se concevoir que dans un monde idéal où toutes les collectivités, que ce soit celles qui dans lesquelles on travaille ou surtout celles qui fabriquent des objets, soient responsables. Je crois qu'on en est très loin.
Il y a un chiffre que j'ai beaucoup vu passer en préparant l'émission. 40% des cancers, ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Christophe Le Tourneau, pourraient être évités, c'est-à-dire à partir du moment où la prévention, alors il y a différents niveaux de prévention c'est prévention par rapport à ses comportements, prévention également avec le dépistage, mais 40% des cancers pourraient être évités. D'abord, est-ce qu'on est sûr de ce chiffre-là ?
Alors, premièrement, c'est une estimation, et puis ensuite, pour revenir sur le dépistage ne diminue pas l'incidence du cancer. Le dépistage permet de diagnostiquer plus tôt un cancer qui, a priori, aurait eu lieu.
Donc, le dépistage, ça ne rentre pas dans les 40%?
Non. Non, le dépistage ne diminue pas donc ça reste à 40% malgré le dépistage. C'est-à-dire qu'on va diagnostiquer un cancer plus tôt grâce à une mammographie, par exemple. Mais bon, qui aurait eu lieu a priori. Voilà. Donc c'est 40%. C'est-à-dire qu'on connaît la cause. Mais c'est pas parce qu'on connaît la cause qu'on peut forcément lutter par un programme de prévention primaire, donc qui est notre comportement, ou un programme de prévention secondaire, c'est-à-dire diagnostiquer plus précocement.
Quand on connaît la cause, est-ce que ça veut dire qu'on la connaît avec certitude, ou bien est-ce qu'il y a encore...
Non, c'est toujours un lien statistique. Même pour un patient donné, un patient qui a un cancer du poumon et qui a fumé, je ne peux pas affirmer à 100% que son cancer du poumon est lié au tabac. Et on connaît tous des gens qui ont fumé toute leur vie qui n'ont jamais eu de cancer, et il y a des gens qui n'ont jamais eu fumé qui ont des cancers du poumon. Donc au niveau individuel, déjà, on ne peut jamais affirmer quelle est la cause d'un cancer. Et puis, voilà.
France Culture. Du grain à moudre. Hervé Gardette.
Cancer, tous responsables, c'est la question que nous posons ce soir à deux cancérologues, Nicole Delépine et Christophe Letournoy, une philosophe Marie Gaille. Avant de poursuivre la discussion, je voudrais vous faire entendre, c'est un court extrait de campagne de prévention pour le cancer colorectal et pour le cancer du sein.
Parce qu'il agit dans l'ombre. Parce qu'il sait se faire oublier. Parce que personne ne veut entendre parler de lui. Le cancer colorectal tue 18 000 personnes par an. Alors qu'avec un simple contrôle de routine, on peut en guérir 9 fois sur 10.
Le dépistage, à quoi ça sert ?
Quand on palpe ses seins et qu'on ne sent rien, on peut penser que le dépistage ne sert à rien. Pas du tout. La radiographie des seins, ou mammographie, permet de dépister des cancers précoces de petite taille avant l'apparition de symptômes. Et qui dit précoce, dit traitement moins lourd, moins long et plus efficace. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr.
Voilà, deux exemples de campagnes de prévention pour dépistage. Alors, il manque l'image, hein, on va mettre ça sur notre site, mais dans le premier film, c'est un film en noir et blanc, ambiance polar un peu inquiétante. Le deuxième, c'est très très coloré, c'est beaucoup plus didactique. C'est deux façons de faire de la prévention, Marie Gaille, de façon qui se valent. Où on a l'impression que les campagnes de prévention alternent un coup pour culpabiliser, pour inquiéter, un coup pour rassurer. On ne sait jamais très bien quel est le bon dosage.
Où est le bon curseur Je pense que Madame Delépine et Monsieur Letourneau qui soignent des personnes seront plus à même de répondre à cette question. Moi, ce que je dirais spontanément, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est dans une époque, pas seulement en France d'ailleurs, où la prise en charge médicale et même l'idée d'accepter d'entrer dans une démarche de dépistage, elle repose beaucoup sur une alliance entre un médecin et la personne. Donc, la culpabilisation, moi, j'ai tendance à penser que ça va pas être un aiguillon extrêmement efficace, et que si on veut cultiver cette alliance le médecin et le patient dans la lutte contre la maladie ou contre sa possible survenue, il vaut mieux utiliser d'autres moyens. Donc j'irai plutôt vers le message coloré, effectivement, le plus possible adressé aux jeunes, parce que je pense que la responsabilisation, si tant est que ce soit un bon terme, ça passe aussi beaucoup par un soin de soi, un rapport au soin de soi, et que plus on l'acquiert jeune, mieux c'est. Donc beaucoup plus de prévention dans les écoles et les collèges.
Nicole Delépine.
Oui, alors je crois que là on aborde un sujet difficile. Bon, pour la prévention dans les collèges, je pense que la meilleure chose qu'on peut expliquer à nos jeunes et moins jeunes, c'est peut-être de limiter l'usage des shampoings pleins de pesticides, etc. Mais sur l'environnement. Parce que alors pour les autres dépistages, quand même là, on va pas forcément être tout à fait d'accord. D'abord, le cancer du sein, c'est quand même un peu plus tardif, mais c'est surtout qu'on va pas être d'accord sur la notion de dépistage, parce que bon, là où on est forcément d'accord, c'est sur le fait qu'il faut faire un dépistage précoce, parce qu'on peut retourner aux situations de 1930, mais dépistage précoce, ça veut dire dépistage chez un individu donné qui a un petit signe, qui l'angoisse ou l'un peu fatigué ou sur un petit truc, etc. Par contre, sur le dépistage systématique du cancer du sein, malheureusement, les campagnes de l'Institut National du Cancer ne nous paraissent pas tout à fait satisfaisantes, et pas seulement à moi, hein, au Formandep, au site qui s'appelle cancer-rose de gynécologues qui travaillent beaucoup sur ces sujets, parce que le dépistage systématique du cancer du sein par mammographie n'a pas diminué le nombre de morts par cancer du sein, ni diminué le nombre de mastectomies sur les 15-20 ans, enfin depuis qu'il est même 30 ans, qu'il est systématique, en tout cas en France. Et ça, ce sont des statistiques indiscutables, publiées, que vous trouvez. Moi, bon, je les ai peut-être, j'en ai déjà mis dans le Cancer Altio qui rapporte, mais bon, on a refait des articles là-dessus, mais qui ne font que relater la littérature internationale publiée dans des revues indiscutables.
Dont mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert à rien le dépistage?
Que le dépistage systématique de la mammographie, sans, mais je pense que vous serez pas forcément d'accord, mais sans signe, oui, effectivement, il augmente. Si vous voulez, si demain vous me dites allez faire une mammographie, j'augmente mon risque d'avoir des ennuis, d'être malade, etc., d'être considéré comme cancéreux, et je n'augmente pas mes chances de ne pas, enfin, mes risques de mourir. Je ne diminue pas mes risques de mourir. Ça, c'est important, parce que si vous voulez, on ne diminue pas le risque de mourir, parce que même si on va supprimer un cancer sur 2000, admettons, cette personne-là va pouvoir mourir d'une irradiation sur son sein, des médicaments qu'elle aura pris, etc. Donc, statistiquement, et ça, ce sont des notions internationales, le dépistage systématique du cancer du sein tel qu'il est présenté par l'INCa n'est pas, d'ailleurs il y a eu des réclamations sur la façon dont c'est présenté. Après, à chacun de discuter, de décider pour soi, à condition d'avoir vraiment l'information correcte, et ça c'est un vrai problème.
Christophe Letourneau.
Oui, ce que je pense, c'est que ces campagnes, elles doivent s'accompagner d'une discussion, en particulier avec les médecins généralistes, pour pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants du dépistage, que ce soit le cancer colorectal ou le cancer du sein. Mais ce que souligne Mme Delépine est en partie exact. C'est vrai qu'il y a du surdiagnostic quand on fait du dépistage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont avoir une biopsie alors que finalement, il n'y a rien. Et effectivement, les cancers qui sont le plus souvent diagnostiqués grâce au dépistage ne sont pas nécessairement les plus graves. D'où un impact sur la survie qui est difficile à établir. Maintenant, on a tous bien conscience que diagnostiquer un cancer à un stade plus précoce, c'est beaucoup mieux qu'à un stade plus tardif. Et ça on le comprend bien. Mais c'est vrai que ces tenants et ces aboutissants doivent être discutés avec un médecin. C'est-à-dire que ces campagnes toutes seules, c'est vraiment difficile. Et la première pour le cancer colorectal est plus effrayante qu'autre chose. Mais avoir le médecin généraliste qui dit, bah voilà, le dépistage, voilà à quoi ça sert chez vous, qu'est-ce que ça peut donner, on n'est pas sûr de trouver, ça. Peut-être il y aura de l'anxiété avec un geste d'une biopsie, etc. Tout ça, il faut l'expliquer pour qu'ensuite les gens en conscience, ils disent, bon, ok, j'ai envie de participer, ou non, j'ai pas envie de participer, même si peut-être que je prends un petit risque supplémentaire, mais au moins que les gens aient connaissance de tout ça.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait plutôt que peut-être de faire des campagnes de dépistage assez massives, avoir la possibilité, alors je ne sais pas de quelle manière, mais d'individualiser les risques que court chacun, c'est-à-dire en fonction de son parcours, je sais pas, du métier qu'on a, de son hérédité, par exemple, voir si certains dépistages sont nécessaires ou accessoires.
Alors, non, mais la médecine aujourd'hui est très tournée vers le thérapeutique, vers le traitement, et les médecins généralistes, et comme nous tous d'ailleurs, parce qu'on a été formés comme ça en fac de médecine, on nous apprend à traiter, mais beaucoup moins la prévention. Mais il faudrait, ce qui serait idéal, et les généralistes, je pense, seraient d'accord avec moi, c'est qu'ils aient du temps pour justement des consultations de prévention. Aujourd'hui, ils sont débordés par le traitement, ils sont débordés par la grippe en ce moment, ils sont débordés. Voilà, ils ont besoin d'avoir du temps dédié avec les gens pour leur dire, bon, voilà, vous avez tel ou tel facteur de risque, éventuellement, en fonction de beaucoup de paramètres, et donc avoir des consultations dédiées de prévention qui ne soient pas de la thérapeutique, mais aussi faut-il qu'ils aient le temps pour ça.
Tout à fait.
Voilà.
Régail.
Oui, non, mais j'abonde aussi dans ce sens. On fera pas de polémique au sens où effectivement, par exemple, les médecins généralistes et de manière plus générale tout ce qui est réseau ville-hôpital ou hôpital et réseau de médecins à la campagne, nécessairement c'est un contact plus rapproché avec les personnes malades, potentiellement donc entrant dans une démarche de dépistage. Donc ça veut dire que les médecins généralistes, ils ont une connaissance de la potentiellement en tout cas de la vie des personnes. Ils peuvent amener le message de façon beaucoup plus fine et des campagnes de prévention à l'échelle de la nation, dans des publicités, etc. C'est peut-être, faut peut-être continuer à les faire, mais c'est certainement pas un niveau qui permet de toucher les gens et de leur permettre de se dire, bah oui, moi je vais y aller parce que j'ai envie d'y aller et que on m'offre la possibilité de le faire. Ça reste à un niveau beaucoup trop abstrait, quoi. Donc on a quand même en France la chance d'avoir un tissu médical, bon, même s'il y a des déserts et qu'on peut se plaindre de beaucoup de choses, etc., mais qui est quand même assez dense comparativement à d'autres pays, et on pourrait effectivement développer aussi cette fonction chez les médecins généralistes, et le volet de formation en faculté de médecine, de ce point de vue, il est central, et vous avez à mon avis soulevé un élément majeur, en fait, c'est comment faire que les professions médicales, toutes spécialités, tout niveau, puissent aussi intégrer cette part dans leur métier.
Et puis ça suppose aussi qu'il y ait peut-être davantage de liens entre l'hôpital et la médecine de ville, Nicole Delépine.
Bah, le problème, c'est que, vous l'avez très bien dit, hein, y a de moins en moins de médecins et à l'hôpital et en ville. Donc, je veux dire, le problème pour l'instant, ça serait de rétablir un certain niveau de couverture, aussi bien en province que même à Paris. Hein. Je crois que Paris est maintenant devenu un des plus grands déserts médicaux en termes de médecins généralistes. Donc ça, tout ça relève un petit peu du rêve pour l'instant, mais bon, on va toujours remonter, quand on descend, on remonte après. Mais je crois qu'effectivement, il faut éviter ces campagnes que, alors je sais pas si les gens les écoutent pas, mais c'est d'abord, c'est quand même pas tout à fait normal qu'on utilise l'argent de la sécurité sociale qui est pas fait pour ça à des campagnes de prévention. À la limite, si le ministère veut les faire, ça serait peut-être, je sais pas, un autre budget, mais c'est sûrement pas celui de la sécurité sociale quand on manque autant, quand on voit l'état des gens dans les EHPAD, enfin dans les instituts pour les personnes âgées, là, que les infirmières ont 3 minutes pour laver un patient, et qu'on en est à dépenser des millions pour des campagnes de publicité extrêmement discutables. Encore une fois, bon, c'est vrai qu'il faudrait une émission au moins pour discuter des dépistages du cancer du sein, mais je vous assure que c'est pas, moi, je n'ai rien a priori contre le dépistage du cancer du sein il y a 10 ans. Bon, puis j'ai rencontré Bernard Junot, et puis du coup on a travaillé la question et tout, hein, s'apercevoir que quand même les mammographies faites systématiquement aux gens ne diminue pas le risque de mourir. C'est quand même une information importante. Il ne diminue pas non plus. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le message là que vous nous avez fait écouter, parce que ça ne diminue pas non plus le nombre de mastectomies. Alors pourquoi ? On se dit, si c'est des petits cancers, on devrait plus avoir de tumérectomie. Enfin, moi, je n'ai que les chiffres statistiques de nombre de mastectomie, c'est-à-dire on enlève le sein complètement, ont plutôt augmenté depuis la période de dépistage systématique. Mais par contre, effectivement, ne pas confondre dépistage systématique, la petite lettre qu'on reçoit par la porte, par la poste, qu'on met à la poubelle quand même, raisonnablement pour un certain nombre d'entre nous, et le dépistage précoce, ça c'est fondamental. Bien sûr qu'il ne faut pas attendre quand on a un petit signe ou mal à la gorge, il y a des ORL, qui ont quand même pas mal de gens qui ont des problèmes ORL, qui traînent souvent. Donc ça c'est évident.
Il y a des prises en charge particulièrement précoces qui peuvent être celles liées au HPV, vaccination contre les papillomavirus humains. Alors là, c'est un autre obstacle qui peut freiner aussi la... Alors, je ne sais pas si on est dans le cadre de la prévention, là, Christophe Le Tourneau.
Oui, c'est
de la prévention. C'est-à-dire qu'on sait bien que, alors, s'agissant de la vaccination, voilà un thème qui suscite de la défiance. Ce n'est pas le seul actuellement, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui se méfient des vaccins. Est-ce que, là aussi, il y a un travail à faire pour dire aux gens, je ne sais pas, peut-être, oui, il faut passer par ce vaccin parce que ça fonctionne. Enfin, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'efficacité de cette procédure?
Alors, non, mais rétablir la confiance des gens dans la vaccination, pour moi, c'est essentiel, quoi. Je veux dire, quand on parle avec...
Parce que j'ai pas dit, j'ai pas dit contre quoi ça prévenait, d'ailleurs. Ça prévient de quel...
Alors, les cancers liés à l'HPV, les cancers du col de l'utérus, et puis également certains cancers de la gorge qui sont liés à l'HPV. Donc là, effectivement, on est dans de la prévention primaire. Et d'ailleurs, il y a une expérience qui est actuellement réalisée en Australie, mais depuis de nombreuses années, et qui commence à montrer ses fruits avec une diminution de l'incidence des cancers liés à l'HPV. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en gros un tiers des patients qui ont un cancer de l'amygdale qui ont un cancer lié à l'HPV, et l'incidence de ces cancers de la gorge augmente avec le temps, et c'est dû à la modification des pratiques sexuelles, etc. Et on a un moyen efficace d'éradiquer l'HPV par la vaccination.
Donc, vous avez auquel cas d'Australie ? En Australie, c'est obligatoire, par exemple, ou...
Ah, c'est une campagne de vaccination qui est nationale, qui est pour tout le monde et qui est déployée. À ce c'est les anglo-saxons, ils discutent moins, hein. C'est-à-dire que nous, bon, français, on a tendance à discuter, mais c'est là où on a inventé les vaccins quand même, hein. Et puis on est là, mais est-ce que c'est vraiment bien? Bon, les anglo-saxons, c'est différent, on leur dit qu'il faut être vacciné, ben ils sont vaccinés.
Nicole Delépine.
Alors là, malheureusement, je vais m'inscrire en faux, parce qu'effectivement, c'est ce qui se raconte, c'est ce qui se publie quasiment tous les jours, dans un jour c'est le Figaro, le lendemain c'est elle, enfin peu importe, c'est les mêmes. Malheureusement, les espoirs fournis par le vaccin anti-HPV ont été extrêmement déçus. Au-delà des effets secondaires sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on n'a pas le temps, il s'est trouvé qu'effectivement il y avait des articles disant qu'il y avait rapidement éradication en Australie. Et en fait, je dois insister que ce sont des simulations qui ont été faites sur des hypothèses favorable et qui malheureusement, bon, ça nous a un petit peu travaillé quand on a vu ça comme cancérologue, donc étant retraité, on a un petit peu de temps, et mon mari étant retraité statisticien plus que chirurgien, a été voir suite à la publication d'un certain Lars Andersson suédois qui disait, qui avait mis le doigt là-dessus, qu'en fait, après vaccination, chez les femmes, et particulièrement chez les femmes, les rattrapages, c'est-à-dire les femmes qui n'étaient pas vierges au moment où elles ont été vaccinées, on avait une augmentation du taux de cancer de l'utérus par rapport aux chiffres antérieurs à la période de vaccination.
Mais c'est donc, très déroutant ce que vous dites finalement, parce qu'on voit qu'on a deux cancérologues en plateau qui disent des choses divergentes.
À force, on a. Bah oui, mais si vous voulez, après
c'est
tout,
si je veux dire, monsieur, de il famille, fait des je me dis qu'est-ce que je fais du coup.
Il a peut-être pas le temps. Il a peut-être pas le temps de faire les registres du cancer que nous on a eu le temps de faire. Hein, je veux dire. Donc, effectivement, nos registres du cancer montrent des statistiques indiscutables sur le nombre de cancers qui ont augmenté en Angleterre, en Scandinavie, en Australie, chez les populations vaccinées.
Il faut bien prendre des facteurs confondants. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas de cancer de la gorge, il y a l'HPV. Et dans les registres, justement, des pays nordiques, c'était zéro. Pourquoi? Parce que les pratiques sexuelles étaient différentes. Les pratiques sexuelles ont changé, il y a le sexe oral, etc. C'est devenu courant. Et donc, l'incidence a augmenté. Il ne faut pas dire que c'est la vaccination qui est à l'origine de
personne
ça.
Personne n'a jamais mis en évidence un lien de causalité. Même dans le cancer du col de l'utérus, et vous regardez la Haute Autorité de Santé dans la publication « L'autorisation de mise sur le marché du Gardasil ». La Haute Autorité de Santé dit que le Gardasil n'a jamais démontré son efficacité pour prévenir le cancer, mais pour prévenir les infections.
Oui,
on est d'accord, mais les infections, mais il n'y a pas.
Mais je veux dire, quand il y a une logique biologique, il faut quand même y être sensible.
Il n'y a pas de démonstration de causalité. Et ce fameux Gardasil, alors je vais amener l'autre aussi.
Brièvement, si vous voulez bien, parce que je voudrais qu'on redonne la parole à Maria. Et en tout cas, bon, il y a des avis divergents. Bah, vous étiez d'accord depuis le début de l'émission.
C'était bien. Hein.
Sur ce sujet. Pour conclure peut-être, Maria, enfin en tout cas pour quasi conclure, puisqu'on est quasiment au terme de cette émission qu'on a consacrée à la prévention des cancers. En cette journée mondiale de lutte contre les cancers, d'ailleurs il faut dire les cancers, parce que ce sont différentes maladies, un des autres axes qui est souvent évoqué par rapport à ces maladies, c'est la question des inégalités. Tout le monde n'est pas égal devant le cancer. Est-ce que tout le monde n'est pas égal non plus devant la prévention du cancer ?
Oui, bah c'est un petit peu ça. Nous permet de revenir au thème que vous aviez abordé au début de l'émission. L'inégalité, en fait, elle est constatée. Que ce soit pour la prévention ou la lutte contre la maladie lorsque celle-ci elle est déclarée, et elle tient à de multiples facteurs socio-économiques. Il y a un sociologue qui s'appelle Philippe Bataille qui avait publié il y a déjà un certain nombre d'années un ouvrage sur le cancer à partir d'études de terrain en région lilloise et qui montrait bien effectivement la manière dont très différente dont par le parcours de vie, le revenu socio-économique, l'éducation, la culture, la familiarité aussi avec le monde médical, la capacité à s'approprier une information de façon un peu vérifiée, la manière extrêmement différente dont les personnes réagissent. Donc forcément, ça crée des inégalités. Et un des points aussi, alors c'était pas nécessairement très aimable par rapport aux équipes médicales d'ailleurs, mais un des points que mettait aussi Philippe Bataille en avant, c'était les effets de connivence sociale qui pouvaient exister en fait entre une personne de revenus et de culture sensiblement égales aux médecins qu'il voyait en face de lui. Donc des inégalités, bien sûr, il y en a. Elles sont aussi liées à cette capacité à rebondir. Mais ça, c'est quelque chose qui est très général et qui est constaté dans toutes les problématiques de santé environnementale. On n'est pas égaux dans la manière qu'on a de réagir face à un risque, face à une entrée dans une démarche de dépistage et face à la prise en charge et à la lutte contre la maladie, surtout une fois qu'on est déclaré malade.
Ces inégalités, vous y êtes confronté, vous, Christophe Letourneau, dans votre activité ?
Non, pas vraiment. C'est vrai que moi, je reçois les patients une fois qu'il faut les traiter. Hein. Donc, je veux dire, le diagnostic est fait, etc. Alors maintenant, les inégalités, oui, il y en a dans la prise en charge thérapeutique. Et on a parfois des patients qui sont adressés d'ailleurs. On peut voir un peu quelle a été la prise en charge thérapeutique initiale, qu'elle soit chirurgicale ou autre. Et effectivement, il y a des inégalités parce que la prise en charge n'est pas la même partout. Et on peut tout à fait dire que tout est équitable sur tout le territoire, mais c'est faux. Il y a des centres qui sont plus des centres d'excellence dans un domaine et d'autres moins. Et donc, ça conduit inexorablement une inégalité également.
Eh ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Nicole de Lépine, Christophe Letourneau et Marie Gaille. Pour les ouvrages respectifs des uns et des autres, enfin, en l'occurrence des unes et des autres, ce sera sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Et puis on a mis également évidemment des liens en lien avec cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr, la télécharger. Vous pouvez également nous écrire et retrouver d'ici quelques heures des extraits vidéo de notre débat. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Jean Guilain-Meige.